Merci beaucoup à tous les collègues de la messe et en particulier aux organisateurs du séminaire. Comme vous m'avez présenté, je ne vais pas le faire, je vais entrer directement dans mon propos. C'est vrai que depuis quelques années ou décennies maintenant, l'environnement est intervenu comme un objet majeur pour les sciences sociales, pour toutes les sciences sociales, puis secondairement pour la philosophie, à la fois plus tardivement et de manière moins frappante. Et je crois qu'en bonne partie, le travail d'un philosophe comme moi dans ce contexte consiste, si vous voulez, à traduire cette irruption de l'objet, de la question, publique et scientifique, en un problème. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il ne s'agit pas seulement pour nous d'un nouvel objet, quelque chose qui soit simplement là pour être pensé, mais quelque chose qui nous oblige à penser différemment, notamment quand on pratique des disciplines qui, de manière tout à fait majoritaire, tout à fait quasiment unanime, pourrait-on penser, se sont construites sur l'idée d'un partage entre ce qui relève du monde social et ce qui n'en relève pas, ce qui relève du naturel ou du non-humain, du monde physique. Donc il y avait évidemment là, pour quelqu'un comme moi, une invitation à reposer ce qu'on pourrait tout simplement appeler le problème des sciences sociales, c'est-à-dire le fait que ces disciplines ne sont pas n'importe quel genre de savoir, qu'elles ne manipulent pas n'importe quel contexte et qu'elles ne sont pas nées concept et qu'elles ne sont pas non plus nées dans n'importe quel contexte. Pour nous, en philosophie, c'est une question extrêmement importante, et d'autant plus quand des représentants majeurs de ces disciplines, comme Philippe Descola, dont je vais un petit peu parler, comme Bruno Latour, dont je vais un petit peu moins parler, ont, dans les décennies récentes, contribuer à reposer ces questions dans des termes tout à fait nouveaux. Donc, je crois qu'il faut essayer de prendre acte aujourd'hui quand on essaie de pratiquer les sciences sociales, y compris dans ce qu'elles ont de plus descriptif et empirique. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, hein, c'est essayer de vous montrer comment, pour la philosophie, l'objet environnemental oblige à revenir sur l'histoire, sur la constitution de ces disciplines que vous pratiquez et que j'observe comme philosophe, pour comprendre pourquoi cet appareil conceptuel du naturel et du social, ou du naturel et du culturel, si vous voulez, a été à la fois, on pourrait dire, constitutif de ces disciplines, et d'une manière, un lieu épistémologique pas tout à fait stable, qui n'a pas réussi tout à fait à absorber l'effort de description sociologique, de comparaison ethnologique. Et en réalité, on pourrait même radicaliser cette position, et c'est en ce en quoi consiste ce livre, hein, en réalité, en disant que contrairement à la doxa historiographique et épistémologique, c'est bien plutôt un dépassement du couple, de l'opposition entre nature et société, qui constitue le problème des sciences sociales, plutôt que, on va dire, la possibilité pour la sociologie et l'anthropologie de se couler dans cette distinction sous une forme aproblématique. Pour moi, cette fois dans mon travail, la radicalisation de cette relecture de l'histoire de l'anthropologie peut conduire, si vous voulez, à un principe théorique, méthodologique un petit peu général, que je peux formuler tout simplement en disant: qu'est-ce que ça change, enfin, en posant la question, qu'est-ce que ça change pour nous, qu'on soit philosophe ou praticien des sciences sociales, qu'est-ce que ça change pour nous si on accepte l'idée que les rapports que nous entretenons collectivement avec la nature constituent le centre de gravité, doivent constituer le centre de gravité d'une pensée sociale, évidemment d'une pensée politique. Qu'est-ce que ça change si la production des sociales, du social, production des pratiques et des valeurs qui composent ce monde social se jouent d'abord au niveau de l'interaction collective avec des milieux. Ça, c'est à la fois le contexte dans lequel je travaille et le point de vue problématique que j'essaie d'adopter pour y évoluer. Alors, pour éviter toutes sortes de difficultés, d'impasses dans lesquelles on peut souvent tomber en manipulant des objets conceptuels aussi étranges et complexes que nature et société, j'utilise souvent une expression qui peut sembler un peu plate, mais qui me permet, dans c'est-à-dire d'embrayer la réflexion, qui est celle, toute simple, qui consiste en fait à définir société par l'idée de rapport collectif à la nature. Et ici, par nature, j'entendrai de manière relativement intuitive l'environnement, le monde matériel, qui justement participe de ces interactions. Alors, cette expression des rapports collectifs à la nature, elle est, d'une certaine manière, elle énonce un simple fait. Ce fait, c'est que les hommes se rapportent à la nature ou au monde matériel, ce monde qui les entoure et qui les constitue, comme à quelque chose dont dépend leur existence et leur prospérité. Je crois qu'on peut donner un sens plus radical à cette expression pour qu'elle prenne du relief et pour en tirer des conséquences théoriques qui ne soient pas trop triviales. L'idée, en fait, qu'il faut voir derrière cette formule, c'est l'idée selon laquelle la nature serait un fait social et parmi les faits sociaux, peut-être le plus curieux et le plus important de tous les faits sociaux. Alors, pour évidemment rentrer dans ce problème, il faut clarifier un petit peu justement ce que c'est de manière générale que le fait social. Le fait social, évidemment, j'emprunte l'expression à l'école durkheimienne, donc à la, si vous voulez, à la fois au lieu institutionnel et épistémologique qui a vu naître les sciences sociales françaises, et d'une certaine manière européenne. Le fait social, c'est, de manière générale, pouvoir coercitif des normes en vigueur qui sont héritées de l'histoire et réalisées généralement sous la forme d'institutions. À travers cette expression, Durkheim voulait montrer que des institutions comme, par exemple, le droit ou la religion, qui peuvent prétendre historiquement un caractère d'exception ou même, on pourrait dire, un caractère d'extériorité par rapport au monde social lui-même, sont en réalité elles-mêmes des produits de l'histoire, un produit de la composition des pratiques dans un collectif. Eh bien, je crois qu'on peut en dire de même, probablement à certaines conditions, de la nature. La nature peut être pensée selon la logique des faits sociaux, ou, pour le dire dans des termes plus contemporains qui n'étaient pas ceux de l'école durkheimienne, proposer un constructivisme méthodologique radical qui nous amène à concevoir la nature comme quelque chose d'homogène, d'une certaine manière, avec des institutions religieuses, juridiques, morales, politiques. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Évidemment, ce constructivisme au regard de la nature, ça ne signifie pas du tout que, comme un corpus juridique ou comme un dogme théologique, les lois naturelles soient de la main de l'homme, soient composées par l'homme. Ça, personne ne l'a jamais dit, moi non plus, je ne le dis pas, ce serait, pour appeler, un non-sens ontologique. En réalité, il s'agit, ce constructivisme radical, plutôt d'une recommandation de méthode qui indique qu'il est possible et en réalité souhaitable d'étudier la façon dont n'importe quel phénomène naturel passe dans les cadres de nos expériences collectives, comment ils prennent sens au sein de pratiques que nous avons l'habitude d'appeler sociales, et qui justement, puisqu'elles se réfèrent essentiellement et peut-être principalement à des phénomènes naturels, précisément la qualification de sociale pose problème. Alors de ce point de vue, donc, je vous le disais, hein, il en va de même peut-être pour le droit, pour la morale et pour la nature, et notamment pour ces manifestations particulières. Les propriétés du climat, celles des paysages, mais aussi la variété des espèces animales et végétales, ou certains phénomènes physiques, comme la pesanteur de l'eau qui entraîne les moulins, ou la combustion du charbon et du pétrole qui alimentent les centrales. Eh bien, tous ces phénomènes peuvent être dits construits socialement. Ils peuvent être dits principalement en deux sens. Le premier de ces deux sens, je pense, est relativement intuitif. C'est l'idée tout simplement selon laquelle la constitution même de ces phénomènes est susceptible d'être affectée par leur passage dans les cadres de l'expérience collective, que ce soit sous la forme des pratiques de transformation directe de ces phénomènes, ou de manière plus indirecte, sous la forme de pratiques intellectuelles, de catégorisation, de hiérarchisation, de qualification de ces phénomènes. Le simple fait de connaître, dans un rapport intellectuel à la nature, est déjà un rapport constructif. Et puis, dans un deuxième sens, qui lui, je pense, va un petit peu moins de soi, et que généralement, de même sens qu'on oublie généralement dans les méthodologies dites constructivistes des sciences sociales, c'est l'idée selon laquelle tous ces phénomènes, hein, les propriétés climatiques, des paysages, des espèces vivantes ou des mécanismes physiques, tous ces phénomènes représentent à chaque fois autant de mises à l'épreuve de ce que nous avons l'habitude d'appeler le monde social. Monde social qui donc doit une partie essentielle de sa dynamique à ces phénomènes du milieu et à leur transformation, plus ou moins subite ou plus ou moins lente. Les rapports à la nature, c'est-à-dire les médiations collectivement instituées qui nous permettent d'accéder à ces phénomènes, sont de même des faits sociaux de première importance, qui ne sont pas seulement des phénomènes économiques, pas seulement des phénomènes d'acquisition et de satisfaction des besoins, mais aussi des phénomènes, pour dire, d'ordre symbolique. Et je vais y revenir. Et donc, la nature, le monde social n'existe que dans un contact direct, productif et transformateur à l'environnement naturel ou au monde matériel. Donc, il est possible de tenir un discours sociologique sur des phénomènes généralement conçus comme naturels, ou si vous voulez, la nature a une vie sociale. Et cela signifie réciproquement que l'ordre des faits sociaux, ce qu'on oublie généralement dans les méthodes constructivistes, que l'ordre des faits sociaux lui-même doit quelque chose à la résistance que lui oppose la nature, propriété singulière de ces espaces, de ces milieux et de ces matières. Pour le dire encore un petit peu différemment, les rapports entre les collectifs humains et le monde non humain ne sont ni prédéfinis dans des phénomènes adaptatifs, évolutifs, ou, si vous voulez, la constitution même de l'univers social pourrait être dérivée, comme on dit en biologie, de contraintes, de pressions adaptatives darwiniennes ou néo-darwiniennes. Mais ces rapports ne sont pas non plus livrés à la pure contingence, ni d'un acte individuel de volonté, ni de processus un petit peu flou, un petit peu vague, lié à l'imaginaire individuel ou collectif. C'est pour ça que ça a du sens de parler de ces rapports comme de faits sociaux. Alors, ces principes un petit peu généraux qui font office de précautions théoriques étant posés, je voudrais maintenant rentrer dans le contenu véritable de ce livre qu'on va discuter aujourd'hui. Et je vais vous montrer, enfin vous expliquer comment une discipline particulière, une forme de savoir particulière qu'a été l'anthropologie sociale, et notamment l'anthropologie sociale française, qui s'est constituée au tournant du XXe siècle, qui a connu une maturation tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc comment dans cette discipline, ce problème des rapports entre nature et société a été posé, et pourquoi, à partir de cette discipline, et de la façon dont elle a posé ce problème, en quelque sorte, nous devons en hériter aujourd'hui pour poser le problème social et politique dans des termes qui ne sont pas tout à fait ceux, on va dire, du langage sociologique courant. Donc je vais vous présenter ces enjeux en quelque sorte en parcourant le livre en travers, hein, en diagonale, c'est-à-dire je ne vais pas du tout suivre l'ordre des chapitres de ce livre, qui est un livre en fait d'histoire des idées, donc qui est un livre construit de manière chronologique, qui essaie de montrer l'évolution d'un problème. Je vais prendre à travers, c'est-à-dire en prenant quatre problèmes, quatre enjeux, à partir desquels il est devenu progressivement évident que l'opposition du naturel et du social n'était pas complètement confortable pour faire des sciences sociales empiriques, et donc à partir desquelles ce dépassement a eu lieu. Ces quatre, si vous voulez, nœuds théoriques, ce sont successivement le problème du rapport entre les personnes et les choses, ou plus exactement le problème des choses qui sont des personnes. Le deuxième sera celui des classifications, ou en fait de l'institution scientifique, l'institution sociale qu'est la science. Le troisième, ce sera celui de la dimension sacrée ou religieuse du rapport à la nature. Et puis la dernière, avec laquelle je conclurai normalement, sera le problème comparatif, en fait, c'est-à-dire pourquoi c'est en étant confronté à des sociétés qu'on disait à l'époque primitive, qu'on dirait aujourd'hui non moderne, en tout cas la qualification pose toujours problème. Pourquoi c'est en étant confronté à ce genre de société, des sociétés différentes des nôtres, que progressivement nous nous sommes aperçus que notre mode de composition du rapport entre société et nature était quelque chose de parfaitement contingent, de parfaitement, enfin, dont l'évidence pouvait être suspendue. Donc le problème comparatif. Le problème, si vous voulez, de la distance culturelle en réalité. Donc le premier élément qui, je vous disais, celui problème du rapport entre les choses et les personnes. Je vais essayer d'aller un petit peu vite pour qu'on parcourt ces quatre points rapidement. Je ne me perds pas trop dans les détails. Parce que je peux pas supposer que vous avez tous lu le livre, et puis sinon ce serait pas utile de toute façon. Donc je vais d'avancer un peu vite. Alors, je commence par cette question du rapport entre choses et personnes, parce que d'une certaine manière, si vous voulez, quand on lit les textes de technologie classique, c'est la première chose qui nous frappe, et puis en réalité c'est la première chose qui a frappé les ethnologues, et même avant eux d'ailleurs, les voyageurs, dans le moment notamment de découverte de l'Amérique. C'est que l'une des choses qui caractérise les sociétés les plus lointaines des nôtres, ce qui veut dire les sociétés qui n'ont pas été en contact direct avec nous pendant très longtemps, c'est la tendance de ces groupes à attribuer à ce que nous avons l'habitude de considérer comme des choses, c'est-à-dire enfin, comme des choses, d'attribuer à ces choses, animaux, végétaux, ou même parfois phénomènes climatiques, cosmologiques, des propriétés qui pour nous sont caractéristiques des personnes. C'est-à-dire essentiellement capacité à avoir une action intentionnelle dans le monde, la capacité à avoir, on pourrait dire, des capacités de communication avec nous humains, mais aussi entre elles, entre choses. Cette tendance, apparemment généralement partagée par les sociétés modernes, non occidentales, a été baptisée par l'anthropologie anglaise victorienne, donc des années 1860-1880, à travers le concept d'animisme. Concept d'animisme chez Taylor et Fraser, qui sont les deux grands anthropologues anglais de cette, enfin, Fraser un petit peu plus tard, de cette époque. Donc, appelle animisme la tendance à considérer, en tout cas dans notre langage moderne, les choses comme des personnes, évidemment. Les sociétés animistes elles-mêmes ne le diraient pas dans ces termes, justement parce que le concept de chose et celui de personne ne sont absolument pas construits de la même manière. Alors, dans l'interprétation des anthropologues anglais, ces tendances révèlent, si ce n'est une irrationalité totale, du moins une rationalité incomplète, hein, c'est-à-dire que pour eux, il y a à l'évidence une faute logique dans ce genre de raisonnement, faute logique qui n'est que, hein, qui n'est que, enfin, qu'une demi-faute, dans le sens où, pour Taylor et Fraser, c'est ce qui permet à ces sociétés de s'adapter à leur univers, en fait essentiellement en cultivant, on pourrait quasiment le dire en termes contemporains, un principe de précaution à l'égard de la nature, c'est-à-dire en apprenant à avoir peur des phénomènes naturels. C'est-à-dire, on se trompe au sujet de la nature, sur sa constitution réelle, mais on cultive des comportements qui sont adaptatifs. C'est en gros l'interprétation fonctionnaliste, néo-fonctionnaliste de l'animisme dans l'anthropologie anglaise, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, quelque chose qui existe toujours, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'anthropologie cognitive, chez des gens comme Dan Sperber par exemple, le logiciel conceptuel est fait un petit peu différemment, mais la thèse fondamentale sur les croyances qu'ils appellent non rationnelles est à peu près la même. Bon. Dans l'école française de sociologie et d'anthropologie, le problème a été posé dans des termes différents. D'ailleurs, antérieure, parce que c'est chez Auguste Comte, donc dans les années 1830-40, hein, que le problème a été posé, cette fois sous le terme de fétichisme et pas d'animisme. Alors le problème est différent parce que pour Comte, le problème qui se pose, c'est celui de la composition d'une communauté morale dont les frontières ne sont pas l'humanité, mais en fait on pourrait dire le monde. C'est-à-dire, Comte constate déjà, même s'il n'est pas ethnologue lui-même, il n'a jamais été en Amérique, il n'a jamais été d'ailleurs hors de France, à peine hors de Paris, même s'il n'était pas né. Pour Comte, le problème, enfin, ce qu'il y a à penser dans ces sociétés-là, c'est la possibilité, voilà, d'étendre la communauté morale et donc la communauté politique au-delà du genre humain. Et pour Comte, il y a là, en fait, un geste qui est en réalité le geste inaugural de ce que c'est qu'un fait social. C'est-à-dire que pour la sociologie, enfin, Comte est l'inventeur de la sociologie, hein, c'est le premier à avoir nommé une discipline sociologique. Il dit, son premier objet, c'est ça, c'est, et ça en fait sa première version historique, ce sont ces communautés, en fait, extra-humaines, enfin, extra-sociologiques, au-delà du social, qui manifestent, on pourrait dire, une forme de solidarité cosmique. Et historiquement, c'est par une série de retraits, hein, de retranchements par rapport à cette grande communauté que la société moderne a fini par se découvrir comme une société d'hommes. Mais au fond, ça, ce n'est que le produit d'une grande série historique et évolutive de retranchements. Ce qui n'enlève rien au fait que, pour la tradition positiviste puis sociologique, le sens originaire du politique ne se trouve pas en adéquation parfaite avec les communautés strictement humaines. Et d'une certaine manière, la relance de cette interrogation dans l'anthropologie la plus contemporaine, chez Philippe Descola par exemple, ou chez Bruno Latour, est en fait l'héritage de l'école positiviste sociologique kantienne, tout simplement parce qu'on a cherché à s'interroger, alors avec des méthodes d'observation et d'analyse évidemment complètement différentes, et en essayant d'éliminer le plus possible les présupposés évolutionnistes du positivisme kantien, mais néanmoins en conservant le problème fondamental de ce qu'est une société, de ce qu'est un corps social, en fait un corps de solidarité sociale, quand il n'est pas en adéquation parfaite avec de pures interactions, pour dire intersubjectives, entre des personnes, entre des sujets humains. Et donc, il faut voir, d'une certaine manière, dans l'anthropologie de la nature contemporaine, l'héritage et la réactivation, via le structuralisme, d'un problème très ancien, un problème qui est en fait contemporain de la genèse des sciences sociales, qui est celui d'un étonnement devant la possibilité de ne pas superposer le social sur l'humain, et donc d'attribuer des caractères de personnalité à ce que nous avons tendance à considérer comme des choses. Alors, le second problème que je voulais évoquer, qui est celui dont vous avez dit, hein, de la dimension sociale de la science, il est, vous allez voir, corrélatif du premier, enfin chacun est évidemment lié à celui qui précède. Ce problème, c'est en fait celui qu'on appelait à l'époque de la genèse des sciences sociales, problème des classifications. Pour les praticiens et enseignants de sciences sociales qui sont là, je pense que c'est chose de parfaitement connu. Le problème classificatoire est central pour la sociologie durkheimienne classique. Il est notamment central dans le grand texte coécrit par Durkheim et Mauss en 1903, qui s'appelle Quelques formes primitives de classification, puis ensuite repris, discuté chez Lévi-Strauss, sur le totémisme. Donc, c'est en fait ce qu'on a l'habitude d'appeler, dans l'histoire des sciences sociales, le problème totémique, qui est en fait le problème de la superposition des subdivisions qu'on opère à l'intérieur du monde social, subdivisions qu'on appellera, selon les contextes, de clans ou de castes, ou même de classes, d'une certaine manière. Donc, la superposition entre ces opérations de division, de hiérarchisation du monde social, et puis les opérations similaires de division, de catégorisation, mais aussi de hiérarchisation du monde naturel. Durkheim et Mauss, dans ce texte de 1903, sont les premiers à faire l'hypothèse selon laquelle en fait, l'organisation que nous attribuons au monde naturel, le fait d'identifier des espèces, hein, notamment les espèces animales, végétales, d'essayer d'introduire des relations souvent hiérarchiques entre ces espèces, est en fait une projection, Durkheim et Mauss utilise souvent ce terme, une projection en fait d'un phénomène qui est complètement inévitable dans le monde social, qui consiste à nous-mêmes nous classer, nous ordonner, nous hiérarchiser, etc. Donc le problème totémique est lui aussi, comme le problème du rapport, enfin le problème animiste, hein, si vous voulez, le problème du rapport entre des personnes et des choses, touche lui aussi au problème des relations entre nature et société, tout simplement parce que dans le paradigme dominant des sciences sociales au moment de leur genèse, pour penser l'ordre du monde, en fait, il faut d'abord avoir une connaissance de l'ordre social, tout simplement. Et d'ailleurs, il faut ajouter que ce rapport entre les deux, souvent, c'est la langue qui nous le donne. Par exemple, les phénomènes projectifs de ces sociétés anciennes, on les voit jusqu'à la Grèce archaïque, puisque en grec archaïque, le terme génos, qui veut dire d'abord la famille, la sphère d'appartenance domestique des hommes, est devenu aussi, peut-on supposer d'un point de vue philologique, dans un second temps, le terme donc, de génos en grec moderne, qui veut dire aussi le genre, en fait le genre au sens classificatoire, hein, au sens naturaliste, si vous voulez. Donc cette perméabilité des catégories sociologiques à l'égard des catégories naturalistes est ce qui permet à Durkheim et Mauss de faire cette hypothèse projective, ou on pourrait dire en fait constructiviste, général, qui nous dit que c'est l'organisation sociale qui, si vous voulez, se duplique ou se transfère par calque, hein, sur les formes de représentation du monde naturel. Ce qui fait, au fond, ce qui, d'une certaine manière, impose à la rationalité sociologique une contrainte très forte, qui est celle qui nous dit que On ne peut étudier l'organisation sociale et l'organisation de la connaissance, donc la science, que de manière interdépendante. Alors évidemment, cette hypothèse projective de Durkheim et Mauss, elle a une très longue histoire. Par exemple, chez Lévi-Strauss, elle était complètement inversée. Lévi-Strauss fait l'hypothèse inverse qui nous dit que c'est au contraire processus de catégorisation, la pensée sauvage c'est ça, hein, de catégorisation du monde naturel, qui sont ensuite, on pourrait dire, recyclés, hein, réexploités pour opérer des classificateurs sociologiques. Mais l'hypothèse durkheimienne a survécu. Par exemple, elle a survécu chez Bourdieu. Parce que Bourdieu, tout simplement, si vous voulez, le concept, enfin le couple habitus illusio chez Bourdieu, c'est quasiment à la lettre la thèse de Durkheim et Mauss sur les classifications primitives, c'est-à-dire que nous n'avons de rapport, notamment d'évaluation, des rapports normatifs, de jugement sur le monde, que dans la mesure où nous sommes d'abord les produits, j'aime pas dire détermination, mais d'une formation sociale. Bourdieu est absolument un héritier du totémisme dans la version Durkheim-Mauss, très rarement rappelé, mais c'est absolument vrai. Bon. Donc bon, je ne détaille pas toute l'histoire du totémisme en anthropologie, parce que ça c'est soit tout seul plusieurs conférences. Je note seulement que c'est voilà, un second point à travers lequel la science, si vous voulez, du problème des rapports entre nature et société est apparue à la première génération des ethnologues et a dû être ensuite retravaillée, réélaborée et maturée. Troisième point maintenant, troisième aspect de cette histoire intellectuelle de l'anthropologie, je vous avais dit, c'est le problème de la relation, si vous voulez, entre les rapports collectifs à la nature et sa dimension religieuse, ou pour reprendre le terme qui là encore est central hein, dans l'école de sociologie durkheimienne, le problème du sacré. Alors je reviens un tout petit peu en arrière pour expliquer pourquoi là encore c'est incontournable. Pour Durkheim, et enfin, au-delà de Durkheim lui-même, pour l'école durkheimienne de sociologie et d'ethnologie, parmi les catégories, enfin parmi les modalités de l'expérience sociale, il y en a une qui est, on pourrait dire, d'ordre supérieur ou qui est transversale, c'est l'expérience permanente et pour Durkheim quasiment enfin, en fait, indépassable de la contrainte. C'est-à-dire l'idée selon laquelle l'appartenance au corps collectif qu'est le monde social se présente d'abord pour nous dans notre expérience sous l'aspect de la nécessité. Il emprunte parfois d'autres concepts pour en parler. Il parle parfois de conformisme. Hein. Donc bon, ça, si vous voulez, c'est la conception du monde social durkheimienne qui lui a été énormément reprochée par les générations suivantes et dont nous sommes à bien des égards assez défaits. Mais en tout cas, ce que ça permet de penser pour Durkheim, c'est la nécessité que nous avons, là encore, de transposer cette expérience universellement sociale de la nécessité dans quelque chose de figurable, dans quelque chose d'extérieur à nous. Hein. En fait, il faut que cette expérience de la nécessité apparaisse comme étant, on pourrait dire, surnaturelle ou extrasociale, sans quoi, si nous la dévoilons comme étant sociale, c'est-à-dire comme étant construite, eh bien, elle perd sa nécessité, puisqu'elle devient précisément instituée et donc contingente. C'est ce qui se passe dans les sociétés que Durkheim appelle totémiques, sociétés qui projettent du coup sur la nature ce caractère de nécessité de l'appartenance sociale. Et c'est ce qui explique pour eux que les rapports collectifs à la nature, si vous voulez, soient généralement dans ces sociétés imprégnés d'un caractère religieux ou d'un caractère de sacré. Précisément parce que c'est la nature qui en vient à supporter, si vous voulez, le symbole de la nécessité sociale. Donc, ça se présente dans la description que donne l'école durkheimienne, par exemple sous la forme des totems animaux, sous la forme des tatouages, sous la forme des objets rituels, hein, enfin, le terrain en quelque sorte, parce qu'ils n'y sont pas allés, c'est un terrain de seconde main pour Durkheim, c'est essentiellement l'Australie, hein, totémiste. Donc ce sont ces objets qu'ils ont, si ce n'est sous les yeux, en tout cas sous l'intelligence. Et donc, en d'autres termes, si vous voulez, le caractère de nécessité qui définit l'expérience sociale trouve dans l'ordre des choses naturelles un espace de représentation idéale, hein, une figure intuitive de cette représentation de la nécessité sociale. Donc la conséquence de cela, c'est que le point d'articulation entre les communautés humaines et leur milieu est investi d'une charge religieuse, tout simplement parce que ce qui est en jeu, c'est le caractère synthétique du corps social. Ce qui fait passer le social du simple agrégat spatialement distribué d'individus, de groupes, de familles, à quelque chose qui vraiment mérite le nom de société, c'est ce rapport religieux ou sacré à la nature comme support symbolique de cette nécessité sociale. Bon. Alors, pour le dire dans des termes qui ne sont pas ceux de Durkheim, mais qui, je pense, permettent de mieux comprendre, ce que ça signifie, c'est que la vie religieuse enveloppe dans ces sociétés traditionnelles une large partie de ce que nous appellerions l'encadrement de la nature. Hein, ça recouvre des interdits alimentaires, des règles de chasse, des formes de collecte, mais aussi un rapport esthétique et mémoriel, par exemple, très prégnant en Australie, à des sites, ce qu'on appelle des sites totémiques, c'est-à-dire des paysages remarquables en réalité, où les êtres du rêve totémique, que les êtres du rêve, comme on appelle en mythologie australienne, ont parcouru. En tout cas, l'idée centrale qu'il faut retenir, c'est que le social ne peut s'organiser que dans une relation constitutive avec la nature. C'est qu'au-delà de la question de la continuité et de la différence entre humains et non-humains, au-delà du problème classificatoire, c'est l'existence même de la solidarité sociale comme mode d'association spécifique, un genre spécifique d'être, nous humains, c'est cela qui se joue dans un rapport étroit avec le milieu naturel. Donc, on va dire, au-delà de la fonction de subsistance que revêt le rapport à la nature, et en réalité, de l'intérieur de cette fonction économique de subsistance, ce rapport matériel à la nature, on va dire, se creuse pour qu'à l'intérieur, on y trouve, si vous voulez, un rapport, on pourrait dire symbolique, hein, en termes durkheimiens ou structuralistes, c'est-à-dire un rapport où la synthèse sociale est en jeu. C'est ce que je voulais dire, en fait, tout à l'heure, quand je commençais cette communication, en vous disant que la production du social, de ses pratiques, de ses valeurs, se joue au niveau de l'interaction avec le monde matériel. Alors, plus récemment, l'anthropologie de la nature, qu'on peut lire principalement chez Descola, a converti cette idée, je le reconnais, assez spéculative hein, pour de la sociologie, en un principe méthodologique beaucoup plus simple. C'est le principe méthodologique qui nous commande, enfin qui nous recommande, d'enquêter sur le social du point de vue de la nature. C'est-à-dire d'adopter comme une hypothèse directrice pour l'enquête sociologique, qu'elle soit d'ailleurs locale ou comparative, l'hypothèse directrice selon laquelle ce sont bien les rapports collectifs à la nature qui fournissent le point d'accroche privilégié pour lire les faits sociaux, hein, les phénomènes d'institution, de politisation, de transformation sociale. Et à mon sens, c'est cela qu'il faut retenir du grand livre hein, de Descola qui est Par la nature et culture. Quand on est philosophe, assurément, je pense aussi quand on est sociologue ou historien, c'est ça qu'il faut retenir, probablement plus que la typologie pour laquelle il est devenu célèbre, hein, de ses quatre fameuses ontologies, hein, animisme, naturalisme, totémisme, analogisme, qui est évidemment intéressante à titre heuristique, mais généralement, on oublie, on fait passer au second plan derrière cette typologie, ce qui en réalité est la leçon magistrale de ce livre, qui est en fait ce principe méthodologique tout simple qui nous dit si vous voulez comprendre quelque chose à une formation sociologique, hein, donc institutionnelle, politique, historique, regardez d'abord comment elle est construite, comment elle compose, pour utiliser un terme qu'il utilise lui-même très souvent, regardez d'abord comment elle compose, comment elle distribue ses propriétés, qu'est-ce qui est une personne, qu'est-ce qui est une chose, comment on organise la pratique scientifique, comment les formes de religion ou ce qui en tient lieu, c'est-à-dire comment ce qui produit la synthèse sociale se rapporte à la nature. Évidemment, ça fonctionne y compris pour les sociétés dites sécularisées ou laïcisées, pour employer le terme français. Évidemment, ça fonctionne, puisque par exemple, progrès ou la croissance sont des concepts synthétiques des sociétés contemporaines, y compris et surtout d'ailleurs quand elles sont sécularisées. Donc c'est ça, On y reviendra, hein, mais je pense la grande leçon de l'anthropologie de la nature, et avec elle, d'une certaine manière, de la sociologie des sciences. Bon, ce qui m'amène à mon quatrième et dernier point, qui relève vraiment de la formation, de la maturation de ce problème. Je crois que, enfin, j'ai déjà un petit peu dit, hein, mais je crois que la raison pour laquelle c'est bien l'anthropologie, c'est-à-dire la science comparée des sociétés, et notamment la science comparée des sociétés modernes et non modernes, la raison pour laquelle c'est cette discipline qui a pris une place singulière dans cette histoire, quand je dis ça, je veux dire par rapport à la sociologie, par rapport à l'histoire aussi, c'est que précisément c'est une science de la différence, une science ou une discipline, une forme de savoir qui s'intéresse d'abord à des écarts ou à des variations. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ce que les ethnologues nous montrent, c'est que les variations des rapports à la nature sont en quelque sorte plus frappants, les écarts sont plus importants en termes de rapport à la nature qu'en termes de formation sociologique elle-même. Au fond, il y a un assez petit nombre de formations institutionnelles sociologiques. On trouve des choses qui ressemblent à de la religion, à de la domination, à de la violence, un peu partout. Dès qu'on a un développement économique un petit peu avancé, on trouve des choses qui ressemblent à des classes. Tout ça, c'est relativement, on va dire, invariable. Alors que les modes de relation à la nature, eux, connaissent on peut dire, des tensions, des écarts énormes. Quasiment, on pourrait dire, parfois, pas incomparables, parce que sinon, justement, la technologie n'existerait pas, mais, on pourrait dire, incommensurables, quoi. Et en fait, c'est par ce biais de ces grands écarts, en réalité, que l'ethnologie a mis sur le devant de la scène théorique le problème de la nature. Ce qui est apparu assez rare, on pourrait dire d'abord modestement, d'abord confusément, puis de manière pleine et entière dans les sciences comparatives, c'est ce qu'on pourrait appeler le caractère provincial ou local de notre propre histoire, de l'histoire moderne, hein, de l'histoire donc de l'objectivation scientifique, de l'industrie, du capitalisme, que cette histoire-là, qui dans les grandes philosophies de l'histoire du XIXe siècle, que ce soit Comte en France ou Hegel, et d'une certaine manière Marx aussi, donc que ces grandes traditions philosophiques avaient considéré comme en fait l'histoire tout court, c'est-à-dire le seul destin qu'une société bien comprise peut se donner, celui du développement, de l'objectivation, de l'articulation entre démocratie et science, hein, si vous voulez, ou entre le monde des ingénieurs et le monde des décideurs, qui sont vraiment les piliers de la société moderne, et bien qu'en fait, ces sociétés-là, qui s'étaient construites comme les sociétés qui étaient, si vous voulez, le télos de l'histoire, étaient en réalité quelque chose, en fait, d'absolument exotique, et devaient devenir absolument exotiques pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est qu'une variation parmi d'autres dans les possibilités qu'on a d'instituer des rapports collectifs à un environnement matériel. Ça a été, si vous voulez, le choc, on pourrait dire, moral et politique introduit par l'ethnologie dans les sociétés modernes. En quelque sorte, la découverte selon laquelle nous ne sommes qu'une expérience historique parmi d'autres, et cela, même si nous sommes l'expérience historique à l'intérieur de laquelle est apparue l'idée que nous sommes la seule expérience historique valable. Voilà. Et alors, cette idée, que parfois on caricature en parlant de relativisme, mais qui, je pense, si on la formule comme ça, n'a absolument rien à voir avec le relativisme, cette idée-là, elle-même, qui est, si vous voulez, le principal don des sciences comparatives à la culture moderne, enfin, et d'ailleurs pas seulement moderne, cette idée-là, je crois, elle est elle-même relative au problème de la nature. Pour une raison toute simple. C'est que, en réalité, comment dire, cette opération qui consiste à provincialiser l'Europe, si vous voulez, pour reprendre les termes de l'historien indien Chakrabarti, provincialiser l'Europe, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière indissociable d'une opération de symétrisation qui va de pair avec elle, qui consiste justement à remettre en question le caractère d'exception du monde social par rapport au monde naturel. Le concept autour duquel, dans les sciences sociales contemporaines, s'organisent ces discussions, c'est le concept de symétrie. Aujourd'hui, les grands mots d'ordre des sciences sociales, c'est d'avoir une approche symétrique, notamment sur les questions nature-société. Ce que vous me dites du monde social, il faut que ce soit référable aussi aux relations de ce monde avec, avec le monde naturel. Et puis, ce principe de symétrie fonctionne, a priori, à un autre niveau, quel niveau d'ailleurs qu'on pourrait dire, là encore, dans les termes de Chakrabarty, au niveau postcolonial, si vous voulez, c'est-à-dire, enfin, de critique de l'héritage colonial, c'est-à-dire, ce que vous nous dites du monde moderne, il ne faut pas que ça introduise de double standard dans l'analyse des sociétés, soit non modernes au sens technologique classique, des sociétés qui n'ont pas connu la dynamique industrielle et scientifique, ou des sociétés qui ont été, qui sont sorties de la gestion coloniale après la Seconde Guerre mondiale, enfin avant ou après d'ailleurs. Et en réalité, ces deux mouvements de symétrisation qui organisent aujourd'hui les sciences sociales vont de pair, si on suit, alors d'une certaine manière Latour, même s'il n'est pas tout à fait explicite là-dessus, mais Descola, lui, l'est absolument, c'est-à-dire que la symétrisation du couple nature-société est en fait la même chose que la symétrisation du couple moderne-non-moderne, ou nous-mêmes et les autres, si vous voulez, tout simplement parce que ces anciennes sociétés que nous avons projetées en situation de soumission politique, économique, mais aussi de position historiquement satellitaire par rapport à nous-mêmes, eh bien, ce sont précisément les sociétés qui ne concevaient pas la nature comme un objet, qui n'ont pas obéi à la séparation, au dualisme, si vous voulez, moderne. Donc, il y a un effet dans les sciences sociales contemporaines, si vous voulez, de conflagration des deux grandes opérations de symétrisation, qui, à mon avis, enfin, donne aux théories politiques une impulsion qui est complètement, enfin, qui est proprement révolutionnaire, au sens d'une révolution de paradigme. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser dans les termes de cette double symétrisation aujourd'hui. Je crois qu'elle est nulle part aussi claire que dans l'anthropologie, dans ces disciplines comparatives. Et elle est, on pourrait dire, secondairement, ou enfin, même si j'ai plus tendance à penser que c'est tout aussi important que l'anthropologie, dans l'histoire, tout simplement, dans des projets de réécriture de l'histoire du capitalisme comme un phénomène globalisé, c'est-à-dire à l'intérieur duquel sont embarqués l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'océan Indien, l'océan Pacifique, et donc d'une réécriture symétrique de l'expérience moderne comme une expérience pour laquelle l'altérité culturelle ne va pas de soi et l'altérité de la nature à l'égard de la société non plus ne va pas de soi. Bon. Tout dépend de quelle heure il est en fait. Je peux m'arrêter là ou continuer.
Il manque 10 minutes ou 50 minutes.
Comment ça?
Encore un quart d'heure, encore un quart
je
d'heure.
Peux dire deux mots?
Encore un quart d'heure.
Non, parce que après, voilà, on peut dérouler, mais l'essentiel est dit. Bon. Donc, je reprends juste tout dernier point pour, parce que j'ai peur peut-être d'avoir été un peu allusif. Ce qu'il y a d'analogue, en fait, dans les concepts de nature et de modernité, c'est que ce sont des concepts qui, traditionnellement, ont servi à penser, si vous voulez, l'exception. De l'exception. Ces deux exceptions, ce sont d'abord le fait que la culture des hommes se pense comme une distinction par rapport à la nature, et puis l'autre, c'est la distinction moderne. Nous, modernes, notre histoire serait distincte de toute autre formation sociale, et elle serait distincte sous un mode spécifique qui est celui de, tout simplement, enfin, c'est distinct, mais c'est meilleur, quoi. C'était le grand présupposé de la rationalité sociologique classique. Donc, l'exception du moderne par rapport au non-moderne et l'exception du culturel en général par rapport au naturel. Dans ce dispositif, si vous voulez, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ce dispositif, c'est dispositif capitaliste colonial, faut dire les choses, c'est ça. Dans ce dispositif, et évolutionniste, effectivement, On crée une asymétrie fondamentale entre la société moderne et toute autre figure historique, dont la multiplicité interne importe beaucoup moins que le fait qu'elle ne soit pas, justement, à la fois moderne et séparée de la nature. Or, l'étape actuelle des sciences sociales, et de ce que fait le comparatisme, de ce que fait l'opération de symétrisation aux sciences sociales aujourd'hui, consiste à faire tomber cette double exception en rétablissant une symétrie des points de vue. On dira alors, d'abord, que ce que l'on vit comme une distinction à l'égard de la nature est en fait le produit d'un mode d'articulation entre humains et non-humains qui certes se dissimule, qui certes est complexe, mais qui n'existe jamais sous la pure forme de la séparation, justement. On pourrait même dire, d'ailleurs, que le fait que nous ayons cru que nous soyons séparés de la nature, c'est la modalité sous laquelle nous nous y sommes rapportés, en quelque sorte ce que dit Latour, nous n'avons jamais été modernes. Et puis, deuxième point, nous disons aussi que les démocraties sociales éclairées par la science sont prises dans des relations constitutives avec d'autres trajectoires historiques. D'autres trajectoires historiques qui, justement, ne sont pas réductibles au statut d'autre ou de reste par rapport à l'événement moderne. Et que ces relations avec ce qui anciennement était en position d'altérité sont aujourd'hui susceptibles de faire un retour plus ou moins attendu, plus ou moins inattendu, dans notre trajectoire politique. Hein, donc c'est derrière cette question tout le problème de l'héritage colonial, des inégalités de développement, qui sont évidemment en même temps des inégalités écologiques, des inégalités matérielles à l'échelle du système Terre. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et peut-être qu'on prendra d'autres points dans la discussion, mais pour ce qui est de la présentation, en tout cas, de ce livre, je pense que je peux m'arrêter là.
Merci. Ça semble mieux. Des deux commences.